économiser le salaire de deux conseillers avec tous les avantages que ça apporte, mm-hmm. puis engager un adjoint à la direction générale. Peut-être. Parce que l'ouvrage est là. Ouais.
Mais un adjoint à la direction générale, là, ça gagne en haut de 100 000. Là,
assurément.
C'est ça. Alors, bon, est-ce qu'on... Tu sais, Mario Bastille a été prudent là-dedans. Là. Ouais. Il dit, oui, on y pense, mais c'est pas encore fait. Puis, tu sais, mais ils ont quand même réservé des sommes d'argent pour ça. Alors, d'après moi, entre l'intention, le désir, puis l'action, on n'est peut-être pas loin, là.
Ouais. Si on met les deux conseillers nouveaux de côté... Moi, je dirais pas non à un adjoint de direction générale.
À suivre. Alors, c'est ça. On se donne rendez-vous demain, Gilles, pour la dernière de la semaine. Et à vous tous, mesdames, messieurs, ben bonne soirée. Bye bye.
Au réseau Cogeco Média. Cogeco Média. Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Québec maintenant, maintenant, avec Philippe Quentin.
Il y a un sondage qui a été réalisé sur les intentions de vote au niveau fédéral. C'est la maison Abacus Data qui en est responsable. Et puis, c'est publié sur le site de Québec 125. Ben, écoutez, là, c'est une domination complète du Parti conservateur. Partout au Canada, sauf au Québec, bien sûr. Au Québec, le Bloc québécois est en avance avec 39 % des intentions de vote, mais les conservateurs sont un très bon deuxième à 27 %, loin devant les libéraux à 20 %. Et là, vous regardez, là, dans les régions, provinces de l'Atlantique, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, domination conservateur, là, c'est même pas proche des autres partis. Les femmes, les hommes, les groupes d'âge, 18-29 ans, 30-44 ans, etc., etc., les conservateurs dominent de bout en bout. Alors ça aussi, ça va peut-être contribuer à la réflexion de Justin Trudeau. Valérie, Post-Canada affirme que son réseau est pleinement opérationnel depuis cet après-midi.
Oui, c'est la bonne nouvelle du jour et que le rythme des opérations s'intensifie graduellement. La société rappelle toutefois qu'il faut s'attendre à des retards de livraison jusqu'en janvier à la suite de la grève qui a duré un mois. Les gens ont 15 jours à partir d'hier, en fait, pour ramasser les articles retenus dans les bureaux de poste pendant la grève et qui l'ont auront été annoncés par carte. Les nouveaux envois commerciaux seront possibles à compter de demain et le nouveau courrier international sera accepté à compter du 23 décembre.
Et la Fédération des transporteurs par autobus se dit très inquiète à la suite de la demande de Lion Électrique pour se protéger contre ses créanciers.
Oui, la Fédération est préoccupée par l'entretien, la réparation et les garanties des autobus électriques actuellement en opération. 1300 assurent le transport des écoliers matin et soir. Certains d'entre eux sont déjà en arrêt par manque de support technique ou encore de pièces. La Fédération demande au gouvernement de reconduire la mesure de soutien à l'électrification alors qu'en 2021, Québec a imposé l'achat exclusif d'autobus scolaires électriques aux transporteurs scolaires.
Et la direction de la santé publique de l'Estrie enquête sur une concentration possible de cas de personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique dans le secteur de Windsor.
Ouais, on dit que la maladie n'est pas à déclaration obligatoire. En janvier dernier, Marco Brindle en est décédé et sa veuve Julie Dubois a témoigné qu'elle suspecte potentiellement 18 cas dans le secteur de Windsor après une rencontre avec un neurologue de Montréal. La directrice de la santé publique de l'Estrie, Dr Isabelle Sanson, joue de prudence dans ce dossier.
L'enquête préliminaire, ensuite, on va voir si on enclenche une enquête plus approfondie avec l'Institut national de santé publique. On a une neurologue qui travaille avec nous dans le dossier. C'est une maladie mal connue. Ça complexifie beaucoup notre enquête. S'il y a effectivement un excès de cas, puis il y a effectivement des pistes environnementales, bien là, on va regarder l'environnement des cas. Puis dans quelques mois, on devrait avoir fini les phases préliminaires.
Et l'ancien président français Nicolas Sarkozy devra porter un bracelet électronique.
C'est une cour d'appel qui a confirmé aujourd'hui une condamnation comprenant un an ferme avec surveillance électronique pour une affaire de corruption et trafic d'influence. L'éditorialiste pour la chaîne Télé-Française d'information en continu, BFM TV, Christopher Barbier, qui affirme que son camp politique à droite n'est plus derrière lui.
Les réactions, elles sont très faibles, très très faibles. C'est là qu'on voit que Nicolas Sarkozy a fini par s'éloigner de sa famille. C'est un homme du passé maintenant et plus personne ne vole à son secours dans la classe politique française, même à droite, d'autant que dans 3 semaines, Nicolas Sarkozy retourne devant le tribunal pour une autre affaire. C'est plus grave. Il est soupçonné d'avoir financé sa campagne présidentielle victorieuse en 2007 avec l'argent de Muammar Kadhafi, le dictateur libyen.
Et l'influenceur masculiniste Andrew Tate et son frère Tristan ont perdu mercredi leur procès pour impôts impayés à Londres.
Oui, et c'est un magistrat qui a confirmé que la police peut donc saisir l'argent de 7 comptes gelés, ce qui représente un montant de plus de 2 millions de livres sterling, soit plus de 3 600 000 $. La police de deux comtés de l'Angleterre a intenté ses procédures civiles pour notamment mettre la main sur de la crypto-monnaie détenue dans un compte par une femme qui n'est pas impliquée dans les entreprises des deux hommes controversés. Voilà.
Merci beaucoup, Valérie. On se retrouve dans une heure. Moi, je vous signale que François Legault se déclare toujours insatisfait du plan du gouvernement fédéral pour la surveillance des frontières.
À Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco Média, Cogeco Média, Cogeco, voici le Québec maintenant. Québec maintenant, 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 avec Philippe Quentin.
Il fait présentement 1 degré à Montréal, averse mélangée de neige et de pluie. Ce soir et cette nuit, de la faible neige intermittente et 0 degré. Ça va ressembler pas mal à ça également demain, jeudi. Vendredi, petite neige intermittente avec un maximum de moins 7. Donc, ça va commencer à être plus froid. Et là, samedi et dimanche, préparez-vous bien. Un minimum de moins 16, de moins 14 samedi, de moins 16 dimanche et de moins 16 lundi également. Le maximum, là, autour de moins 9, moins 10 pour les trois journées. En revanche, pour le 24 décembre et pour le 25 décembre, ben, ça devrait être assez clément. Peut-être un petit peu de neige mardi, mais rien de majeur. Donc, les gens qui vont prendre la route pour aller visiter la famille, ben, ça devrait bien se dérouler. Catherine.
Hey Philippe, je t'ai trouvé une activité pour le mois de juin.
Pour le mois de juin?
Peut-être qu'on va faire ça ensemble. Ah, mais oui. On a appris aujourd'hui qu'il y aurait un spectacle inspiré de la revue musicale Mamma Mia.
Ah,
donc,
oui.
Un spectacle qui va porter sur les chansons d'ABBA, qui s'intitule ABBA Célébration. Ce sera mis en scène par Geneviève Dorion-Coupal. Et donc, tu vas pouvoir aller chanter.
C'est extraordinaire.
À l'Espace Saint-Denis. On ira ensemble.
Ben oui, début juin, ben c'est ce que j'allais dire. C'est pour célébrer le succès de la première année de cette émission-là.
Exactement. C'est du 4 au 15 juin et on va se payer à la traite.
OK, j'ai d'annuler tous mes rendez-vous du mois de juin. Là, pour être sûr d'être libre.
Et là, j'ai la question qui tue, Philippe. Est-ce que toi, t'étais du camp Agnetta ou Anifrid?
Ah, ben là, c'est tellement simple à répondre à cette question-là. Agnetta, bien sûr.
C'est Agnetta,
ben oui.
Oui,
ben oui, ben oui. Bon. Ouais. Pourquoi? Alors, t'as l'air déçu?
Non, pas du tout. J'étais juste curieuse.
Je pense que les jeunes hommes de mon âge, à l'époque où ABBA était hot, Agnetta, il l'aimait beaucoup.
On aura la chance de s'en parler.
Valérie, Baudouin,
oui,
là.
Allô? Oui, je vais te parler, écoute, de plusieurs choses. Et je sais pas, il y a une saga, là, le shutdown du gouvernement américain, là, oui. Là, ce qu'on appelle une paralysie partielle du gouvernement. Ça s'en vient assez vite parce que le leader républicain voulait passer, donc, un projet de loi d'ici à vendredi minuit. Mais là, Elon Musk s'est mis sur son cas. Il a même publié son numéro de téléphone de son bureau pour que les gens harcèlent Mike Johnson et disent de pas faire passer ça.
Toujours sympathique.
Même chose pour Donald Trump. Mmh. Alors, il y a beaucoup de pression en ce moment dans le camp républicain. On est comme dans la petite guerre en se disant, parfait, le gouvernement peut être paralysé. Il reste juste 32 jours avant que Trump soit président. Donc, paralysons le gouvernement, puis on va tout régler par la suite. Alors, on va se parler, bien sûr, de ça. Et je vais te parler de l'obsession de Donald Trump. Et non, ce n'est pas l'auto-bronzant, ce n'est pas le golf, c'est le Canada.
C'est fascinant.
Même en plein milieu de la nuit, il est obsédé par nous.
Tout à fait. Puis on va en parler également avec Nathalie Normandeau de tout ça. Salut Nathalie.
Allô Philippe.
Oui, alors un autre rebondissement avec ce nouveau message où Donald Trump, au milieu de la nuit, 3h23, Valérie, je pense, très exactement, a dit, ben ouais, ce serait vraiment une bonne idée que le Canada devienne le 51e État américain.
Ben oui, je ne sais pas ce qu'il boit avant de se coucher, mais honnêtement...
Une coke diète, Nathalie.
Une coke diète, tu devrais changer sa recette, mais est-ce qu'on a le goût d'être citoyen américain, là, honnêtement? honnêtement, là, ça commence à devenir, devenir gênant, choquant. Et d'ailleurs, bravo à Jean Charest d'avoir fait, d'avoir publié un message que tu vas recevoir d'ailleurs.
Tout à fait. Oui, autour de quoi, 17h35-40 à peu près. Puis Jean Charest aujourd'hui là sur X a dit, écoutez, ça pue de bon sens, là, Donald Trump, là, grosso modo, arrêtez ça, quelqu'un. C'est pas les mots qu'il a employés, mais c'est ça que ça voulait dire, ça là, quelque part.
Et la sortie de Jean Charest nous permet de nous questionner sur l'attitude, l'attitude qu'on doit avoir face à un Donald Trump qui a complètement là, déchaîné et qui est déconnecté de la réalité également. Alors, on va jaser de ça, mon cher Philippe.
Excellent, Maker.
Je te parle très rapidement d'un rapport de Hockey Canada sur les pénalités qui ont été décernées pour des motifs de discrimination. C'est tout nouveau, là. C'est la première année qu'on arrive à réunir. En fait, c'est dans les premières années qu'on arrive à réunir ces pénalités-là, bien les identifier, pour pouvoir comparer aux années précédentes, donc 2023-2024. On se rend compte que par rapport à l'année précédente, des pénalités pour discrimination, ben, ça a augmenté de 41%. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on arrive à les quantifier. La mauvaise nouvelle, ben, c'est que ça a augmenté. Donc, si on parle de nettoyer un peu le sport de tout ce qui est néfaste en termes d'agression, en termes d'intimidation, ben, c'est déjà un excellent début pour Hockey Canada. Vous pouvez aller lire ça en ligne. D'ailleurs, c'est assez facile à trouver. Sinon, ben, dans la Ligue nationale de hockey, ce soir, il y a 5 matchs. Les prochains adversaires du Canadien de Montréal jouent ce soir à Détroit, reçoivent les Flyers de Philadelphie, également les Maple Leafs qui affrontent les Stars de Dallas. Le Wild du Minnesota, les Panthers et ainsi de suite. Et en fin de soirée, deux équipes canadiennes en action. Les Canucks sont en Utah et les Jets en Californie pour affronter les Ducks.
Merci, Maker. Michel Boisvert, tu vas nous parler dans ta chronique économique de Lyon Électrique.
Oui, je reviens sur Lyon parce que il y a des articles qui sont très troublants. J'ai vu quelque chose dans le journal de Montréal. Il y a deux journalistes qui suivent très près Lyon. Il y a des pratiques, des camions défectueux qui auraient été subventionnés deux fois. Puis pas seulement un, une vingtaine. C'est à se poser des questions. Qu'est-ce que faisait la direction? Qu'est-ce que faisait le conseil d'administration? Et il y a un autre article dans la presse qui parle des subventions qui changent le risque moral. Bref, c'est très intéressant et c'est de ça dont j'aimerais vous parler.
Très intéressant, puis un petit peu troublant aussi. Hein?
Oui, très troublant. Non, vraiment, là, ce que j'ai lu dans le journal de Montréal soulève beaucoup de questions.
Merci, Michel.
Son opinion stimule la discussion. Discussion. Voici Nathalie Normandeau.
Alors, Nathalie, c'est le sujet de la semaine, ces relations très complexes. Donald Trump, Justin Trudeau, Chrystia Freeland, on est dans ce feuilleton, mais c'est un feuilleton qui devient inquiétant à plusieurs égards. Et là, on va essayer de prendre les éléments un par un, toi et moi, puis on va commencer avec Justin Trudeau. Alors, que fait Justin Trudeau? Que fera Justin Trudeau?
Ben, il réfléchit.
Ouais.
Et dans tout ce débat, parce que tu parles de tension, de feuilleton, là, je pense que c'est important de garder la tête froide, le plus froide possible, compte tenu de la pression avec laquelle Justin Trudeau compose actuellement. Là, bien sûr, les partis d'opposition à Ottawa appellent à sa démission, des députés de son caucus appellent à sa démission, mais on sent qu'il y a quand même encore un noyau dur de ministres et de députés qui continuent de l'appuyer. La dernière chose qu'a Justin Trudeau à faire dans le contexte de haute tension avec Donald Trump, c'est de quitter le navire. C'est la dernière chose qu'il doit faire parce que s'il le fait, ça placerait le Canada dans une position, dans une posture encore plus inconfortable. Alors, certains ministres l'ont invité à réfléchir. Je pense que c'est ce qu'il va faire au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines. Mais selon moi, l'élément le plus déterminant, ça sera le jour où Donald Trump sera assermenté comme président et le jour où il signera ce fameux décret qui confirme ou pas, mais qui pourrait confirmer une imposition de tarifs douaniers importants pour le Canada. Alors,
qu'est-ce que tu penses qui arriverait ce jour-là? Disons que Trump y va là, puis décrète ces tarifs-là. C'est quoi l'impact immédiat pour Justin Trudeau?
Puis je persiste et signe. Moi, je pense que la pression va être telle que ça va déclencher une élection au Canada parce que là, les premiers ministres des provinces vont exprimer leur déception, vont pointer du doigt Justin Trudeau en lui disant qu'il a échoué. Alors clairement, ça va provoquer une élection. Mais parce qu'il nous reste peu de temps avant le 20 janvier, et moi, je ne crois pas que Justin Trudeau va quitter le navire à ce moment-ci compte tenu du climat d'insécurité qui existe. Un. Deuxièmement, quitter le navire, là, il faut, ça prend un minimum de préparation. Qui va lui succéder? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs étapes à planifier. Alors,
et on ne sait même pas s'il démissionne, disons, demain matin ou dans une semaine ou dans 10 jours. Ouais. Là, qui devient chef du Parti libéral à très court terme? Comment on choisit cette personne-là? Est-ce que c'est le caucus qui vote? Est-ce qu'on essaie de nommer quelqu'un par intérim le temps de consulter les membres? Bref, il y aurait beaucoup d'options sur la table.
Oui, bien là, je pense que l'option la plus simple, c'est de la nomination d'un chef intérimaire. Naturellement, ça pourrait être Dominique Leblanc, qui semble être l'homme de confiance de Justin Trudeau. C'est lui qui l'accompagnait à Mar-a-Lago. J'exclus d'entrée de jeu François-Philippe Champagne parce que c'est un secret de polichinelle. Là. Il a un intérêt éventuellement à se présenter s'il y a course à la chefferie au Parti libéral du Canada. Je dis s'il va y avoir course à la chefferie au Parti libéral du Canada. On sait que Justin Trudeau va quitter, mais là, la grande question, c'est il va quitter quand? Est-ce que c'est avant Noël, après Noël? Moi, je n'y crois pas. Encore une fois, avant Noël, je n'y crois pas.
Tu n'y crois pas?